Denis Gravel, présenté par Identité Québec. Faites votre demande de pardon et soyez financé sans intérêt en une seule étape. Identité Québec, à un clic de votre liberté.
À Boulevard 102.1, c'est l'heure du Pit Stop. Pour les 30 prochaines minutes, Gravel et Marceau décortiquent les sujets chauds du jour et ce qui fait réagir le Québec. Ici, c'est sérieux.
Mais, je tombe à terre, j'en viens pas. Qu'est-ce qui se passe?
Mais c'est jamais plate. Disponible à tous les jours sur la page YouTube de Boulevard 102.1. Voici le Pit Stop.
On a une multitude de sujets à vous jaser dans le Pit Stop. Pas sûr qu'on va passer au travers de tout ça. Juste avant, on va aller en manchette avec Max. Et juste avant les manchettes, on va aller voir ce qui se passe sur la route. Max, est-ce que ça s'est complexifié sur le réseau à Québec?
Un petit peu. Capitale-Ouest, c'est encore au rouge entre Beau-Royal et l'approche de Laurentienne. Laurentienne-Sud, quelques petits problèmes qui n'étaient pas là plus tôt entre Jean Talon et Capitale. Robert-Bourassa-Sud, toujours jamé vers le boulevard Le Bourgneuf. Henri-IV-Sud, encore au rouge entre l'avenue Industrielle et Chauveau-Ouest. Aussi, dans ce qui s'est ajouté, il semble y avoir un petit problème là, sur la 40 Est, un peu passé, la 138 dans le coin de la courbe de Saint-Augustin. Secteur des ponts, ça s'améliore tranquillement, mais sûrement, mais il y a encore du ralentissement à prévoir.
Les 30 secondes de manchette.
Air Transat et WestJet suivent le pas d'Air Canada. Ils suspendent leur vol en direction de Cuba dans le contexte de pénurie de carburant d'aviation sur l'île. WestJet qui avait annoncé plus tôt son intention de poursuivre ses activités normalement, mais on s'est ravisé, même son cloche pour Air Transat qui suspend ses vols vers Cuba jusqu'au 30 avril.
Tous ceux qui ont des voyages dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois, parce que la fin de semaine de relâche s'en vient. À 9h30, on va parler avec mon agente de voyage, Mélanie Guillemette, qui va être là, qui va vous donner l'heure juste concernant le topo des prochains jours.
Santé Québec affirme que le nombre de patients en attente d'une chirurgie hors délai a chuté de 45% en un an. Au 31 décembre, moins de 5000 personnes attendait depuis plus de 12 mois comparativement à 8824 l'année précédente. Pour les rares fois qu'on peut avoir des bonnes nouvelles en santé, on va en parler. C'est dans le devoir qu'on peut lire ça ce matin. Et Donald Trump menace de bloquer l'ouverture du pont Gordie Howe entre Windsor et Détroit. Là, il y a du stock dans ce truth-là qui a été publié par Trump, là, mais on peut en retenir entre autres que l'accord entre le Canada et la Chine va faire que la Chine va mettre fin à toute pratique du hockey au Canada et éliminer définitivement la Coupe Stanley. Donald Trump qui mentionne qu'il n'autorisera donc pas l'ouverture du pont Gordie Howe tant que les États-Unis n'auront pas été pleinement indemnisés pour tout ce qu'ils ont apporté au Canada et surtout tant que le Canada ne les aura pas traités avec l'équité et le respect qui leur sont dus. C'est Ottawa qui a assumé les coûts de 6,4 milliards pour la construction du pont et on veut se rembourser par péage. Au sport, l'équipe canadienne féminine de hockey qui reprend l'action cet après-midi, 14h10 face aux États-Unis. Marie-Philippe Poulin qui a subi une blessure au bas du corps hier pourrait être en uniforme, mais pourrait ne pas l'être non plus. On verra ça cet après-midi en temps et lieu. Et vous dire que le Canada a obtenu sa première médaille d'argent des Olympiques en relais par équipe mixte, courte piste, donc patinage de vitesse, médaille d'argent pour le Canada.
Il y a Vincent qui nous écrivait, Denis, tantôt sur le phénomène des camionneurs à rabais qui dit « Salut la gang, moi je suis camionneur, ça fait 20 ans que le problème des chauffeurs illégaux existe. » Et là, ils prennent l'ampleur année après année. On fait juste commencer à cogner sur le clou en 2025. On est maintenant rendu en 2026. Et avant ça, quand on en parlait publiquement de ces dangers publics sur la route, on se faisait traiter de raciste. Tu sais quoi? Si tu ne l'es pas, tu n'as pas à t'en faire avec ce que les gens peuvent te qualifier. T'sais, moi, là, hier, on a parlé de Cuba avec David Chabot, Denis. Et il y a quelqu'un qui m'a écrit, puis j'ai pris le message ce matin, qui me disait « Bon, c'est beau parler de voyage, mais parler un peu plus de ce qui se passe à Cuba. » Puis il avait entièrement raison, mais ça ne veut pas dire que je suis insensible envers la situation des gens à Cuba. Mais nous autres, on fait de la radio locale pour le monde d'ici, puis ils ne vivent pas à Cuba. Donc, on parle de la problématique, mais on parle aussi des voyages qui étaient prévus. Puis de me faire qualifier de raciste quand je parle du phénomène des camionneurs Inc., je n'en suis pas un. Puis si je m'en faisais pour ce que les gens peuvent penser, Denis, je ne ferais pas de radio.
Deux choses.
Je ne veux pas aller en politique non plus.
Deux dossiers, deux choses. Le premier concernant Cuba, évidemment, on est dans un temps de l'année où énormément de gens prennent des vacances. Et énormément de gens partent à Cuba. On a une collègue qui est à Cuba présentement puis qui essaye de revenir sur les premiers avions disponibles. Quand on a fait la nouvelle hier, on a eu énormément de réactions. réactions de gens qui sont dans l'inquiétude présentement. J'ai même été surpris par la quantité de gens qui, présentement, sont en communication avec leur agence de voyage parce que sont inquiets. On a un auditeur qui partait en fin de semaine, puis ça brise le cœur un peu, là. Lui, c'était une surprise. C'était une surprise pour sa blonde, pour la Saint-Valentin. Il a tout annulé ça. Je comprends.
Fait qu'il l'a amené à Montréal.
Mais moi c'est ça que je vais dire à ma blonde. Je vais lui dire, hey chérie, j'avais préparé un voyage à Cuba, puis là, on ne peut pas partir.
À ta blonde?
C'était juste un scénario fictif pour la blague.
Okay.
Mais si, mais il y a des gars qui peuvent faire ça, si vous voulez.
Ouais. Oui. Puis finalement, ben, tu dis, finalement, on va aller au Motel 8 à Trois-Rivières. Je dis, il y a moyen de moyenner.
Exactement.
Non, mais tant qu'aller dans un endroit tout décollissé, ouais. Montréal, c'est une belle place.
Mais oui, c'est terrible ce qui se passe à Cuba pour le peuple cubain. Mais en même temps, les gens d'ici sont inquiets pour leurs vacances. Fait qu'on aborde cet aspect-là parce que, justement, on fait de la radio locale. Concernant les camionneurs, vous voulez savoir si vous êtes raciste ou pas? Ben, c'est un camionneur qui a fait sa formation, puis qui a fait ses classes, puis qui a son permis régulier. Si c'est un immigrant, puis vous le traitez de, comment est-ce qu'il appelle ça, les tapis roulants, puis ces affaires-là, ben là, vous êtes un fucking raciste. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est le phénomène derrière, c'est de voir, justement, qu'il y a des passe-droits qui ne devraient pas exister, puis je pense que n'importe qui est capable de faire la distinction entre les deux, là. Il y a plein d'immigrants qui viennent, puis qui prennent le temps d'avoir les formations nécessaires, puis c'est la même chose aussi sur les routes. C'est la généralisation qui amène au racisme. Puis ça, ben, ça vous appartient. Posez-vous des questions.
Oui, exact. Hey, félicitations pour le suivi hier. Tu as fait entendre la vie des filles concernant l'extrait qu'on avait fait jouer dans le Pit Stop. J'ai trouvé ça le fun parce que c'est vrai qu'on est quatre saucisses le matin là, ben, à se prononcer sur quelque chose. Puis d'entendre deux filles se prononcer là-dessus puis dire, regarde, les filles, les gars sont pas si pires que ça, ça a fait du bien.
C'est parce que je voyais et je lisais beaucoup de commentaires de gars qui allaient raide puis qui donnaient quasiment raison à la pauvre fille à Radio-Canada de par la violence de leurs propos. Fait que là, je me disais, ouais, quatre gars qui parlent de ce qu'une fille a dit sur les hommes à Radio-Canada sans dire qu'on avait tort ou qu'on avait raison. J'ai ouvert l'opportunité. C'est rare que je parle aux filles avant le show parce que j'aime ça que les sujets soient des surprises puis j'aime ça avoir les réactions spontanées. Là, j'étais un peu OCD là-dessus. Là. Mais là, j'ai dit aux filles qui n'avaient pas entendu l'extrait puis qui n'avaient pas entendu le Pit Stop, j'ai dit, allez écouter ce qu'elle a dit, la fille à Radio-Canada. Puis si vous avez le goût, je vais vous donner le temps que vous avez besoin, justement, pour en jaser. Puis c'était drôle parce que je les ai vus écouter l'extrait, puis je voyais le face. Puis je me disais, ouais, je pense qu'ils vont faire une demi-heure là-dessus.
T'avais déjà le sujet.
Ouais, mais je trouvais ouais. Ça tout à fait pertinent d'entendre des femmes sur ce sujet-là.
Ouais.
Est-ce qu'elles pensent ça des hommes? Est-ce qu'elles se sentent comme ça vis-à-vis les hommes? Comment elles se sentent par rapport à ce féminisme-là, qui est plus du féminisme militant, je veux dire, rendu là, on parle de gens qui ont peut-être besoin d'aide, là, je veux dire, dans une certaine mesure. Tu peux pas avoir autant de haine et faire autant de raccourcis et de généralités si ça part pas d'une très mauvaise place ou d'un traumatisme. Je suis pas psychologue, mais je pense que... Puis on a vu... comment est-ce qu'elle s'appelle, là, la dame qui avait la chronique? Là?
Élisabeth Lemay.
Je veux dire, là, la chronique a été retirée du site de Radio-Canada
hier
après-midi.
En fait, c'est même pas vrai. Ils l'ont juste enlevé des réseaux sociaux. Elle est encore sur le site, tu peux encore l'écouter. Elle, ça coche, c'est du fait qu'il l'ait enlevé des réseaux sociaux parce qu'il avait trop de commentaires désobligeants.
Parce qu'elle a pété une fuse.
Oui, solide. Oui, solide. Puis je pense que ça confirme un peu là, que c'est une dame qui a besoin d'assistance. Là,
Moi, je te confirme une chose. Si elle reçoit des chocolats à la Saint-Valentin, on est quoi, 8,5 millions de Québécois? Là?
Ouais.
La seule personne qui peut lui envoyer une boîte de chocolat à la Saint-Valentin présentement, c'est Maxime Larouche. Max, depuis deux jours, il a énormément d'empathie pour
lui. Il voit une opportunité.
Hey, dis pas ça, tu lui donnes raison.
Ouais. Maudit mononcle.
Là, vous
Jeff.
Me faites passer pour un gars horrible.
Ouais, puis tous ceux qui attraient...
Il n'y a même pas moyen d'acheter du chocolat.
Puis tous ceux qui attraient de folle puis de conne sur les réseaux sociaux, vous tombez dans le piège en passant.
C'est ce qu'elle voulait, probablement.
Oui, justement, pour être la victime suprême du mouvement masculiniste. Montrez que vous êtes plus intelligent que ça. Tant qu'à commenter des bêtises, faites juste passer un tour.
Ouais. Hey, on parlait des camionneurs tantôt, je veux jaser de ça avec toi parce que c'est une problématique là, dans le trafic, les gens qui sont sur leur cellulaire. pendant que la voiture est arrêtée, les gens consultent. Là, je ne sais pas ce qu'ils font exactement sur leur cellulaire, mais ils ont de l'air à aller voir ce qui se passe sur Instagram.
Pas juste arrêter,
Facebook.
Là, dans un trafic qui va au ralenti comme ce matin, il y en a beaucoup qui sont juste go with the flow. Le cellulaire est allumé, puis.
Dans le journal Le Droit, qui est un peu l'équivalent du Soleil pour Québec, là, on a posé la question aux automobilistes. Est-ce que vous consultez votre cellulaire au volant? Denis, si tu n'avais pas vu le sondage, tu aurais dit combien de personnes sur 10, mettons, consultent leur cellulaire au volant? Dans toutes les circonstances possibles.
Tu veux-tu la vraie réponse?
Non, celle que tu aurais pensé que les gens en majorité auraient dit. Là, mettons, moi, tu vois, je vais y aller. Là. Quand je parle aux camionneurs, je parle aux vrais monde qui sont sur la route, les professionnels de la route, c'est 7-8 personnes sur 10 qui sont sur leur cellulaire.
J'étais à 2 sur 3, moi, dans ma tête. Là. Je me disais, il y a au moins 2 personnes sur 3 dans le trafic qui régulièrement consultent leur cellulaire.
Ça a 20, ça a 40, ils sont sur leur cellulaire.
Ouais, puis je fais partie du problème, pas de la solution.
Moi, j'allais dire 9 sur 10, moi. J'allais dire plus que les camionneurs. Mais on coule pas, je fais partie du problème, moi aussi.
Vous faites ça?
Oui. À lumière. Moi, à lumière rouge, je regarde mon cellulaire.
Max, en autobus,
j'ai des messages.
Je pense que tout le monde peut plaider coupable, soit dit en passant. Mais
bravo si vous le faites pas en passant.
Exactement.
Vous êtes meilleur.
Dans le sondage, Denis, là, les gens ont répondu à 84%. Je n'ai jamais posé les yeux sur leur téléphone.
Impossible.
Quand ils sont au volant. Les gens sont des maudits menteurs.
Ben, sont-tu des menteurs ou c'est des addicts? Parce que j'ai vu le chiffre ce matin, puis je m'en venais en char, justement, en lisant les textes que tu m'avais envoyés sur Messenger. puis je me posais la question, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui répondent « Non, je prends jamais mon cellulaire » et qui sont convaincus de ce qu'ils disent. Mais tu sais, l'addiction, c'est plus fort que la raison.
Ouais.
Je pense qu'il y a beaucoup de gens là-dedans que c'est tellement rendu instinctif. Puis on est une génération addict là, vis-à-vis nos cellulaires. C'est pour ça que nos enfants sont tout le temps là-dessus, parce qu'on donne pas l'exemple. Ouais. Je pense qu'il y en a beaucoup qui s'en rendent même pas compte. Moi,
c'est une rouge, ça va vite, tu sais, tu réponds vite.
Oui, il y a moyen, c'est un feu rouge, d'envoyer 2-3 textos.
Fait que 84% des gens disent « Non, moi, je consulte jamais mon cellulaire au volant. » Combien sont ceux qui disent qu'ils ont consulté leur cellulaire très souvent au volant?
Combien?
Bon, ça doit... Max, t'aurais dit quoi?
Ça doit pas être beaucoup.
Ben moi, j'aurais dit 30, 40.
Ben, normalement,
oui. Mais là, si c'est 16% qui ont dit, il va en avoir 3% qui vont dire très souvent.
Et toi, t'es trop intelligent. Là. Qu'est-ce que tu fais ici le matin que moi?
Ben, je sais pas, je fais juste m'amuser.
Tu fais juste la voix de la raison.
Ouais, c'est ça. Ça en prenait au moins un ben l'addiction. Oui. C'est 1% qui disent, oui, je consulte très souvent mon cellulaire au volant.
Si c'est pas de l'addiction, c'est probablement les mêmes personnes qui disent, en moyenne, comment dure une relation sexuelle dans votre vie de couple? Oh, entre 3 et 6 heures. Ben oui.
C'est 1% des gens qui disent « Oh oui, je consulte régulièrement mon cellulaire au volant.
Arrêtez de consulter votre cellulaire au volant et regardez autour de vous. Oui. Faites un sondage maison. Vous allez voir que la plupart des gens sont là-dessus.
Ah non, c'est inquiétant. Là. Hey, les gars, chez Truck Stop Québec, les gars me disent « Yann, on en voit de toutes les sortes sur la route. Sur la 20, sur la 40, là, on voit 7 personnes ou 8 personnes sur 10 sur leur cellulaire. On voit des gens qui se taponnent le Zwiz en montant à Montréal. »
Oh yes, avec Pornhub ouvert.
Je sais pas. Mais moi, ce qu'ils me disent, c'est que ça arrive souvent que le gars, il a la main dans les pantalons.
On voit des
madames qui rendent honneur au monsieur. Ça a l'air qu'ils voient des affaires que toi et moi, on ne verra jamais de nos vies. Là.
Écoute, il y a des... Moi, je prenais un exemple, puis les filles ne me croyaient pas que des gens écoutaient des séries Netflix en conduisant.
Ça existe.
Ça existe.
Ben, les rideaux! Chez les camionneurs un peu weirdo, là,
oh oui.
Ils mettent des rideaux chaque bord de leur fenêtre. Ils ferment le rideau. T'es supposé regarder dans ton angle
mort, oui.
Ce qui s'en vient. Là. Ben, eux autres, ils ferment le rideau pour pouvoir écouter leur film en paix.
Non, ça n'a pas de sens.
Ça va
mais,
pas
bien sûr, mais ils n'utilisent pas leur cellulaire. Ils font juste regarder l'écran.
Ouais, ouais, ben oui, oui.
Pour ça, c'est dans le 84% qui ne l'utilisent pas.
Il est sur le dash.
Je
touche pas.
J'y touche jamais. Je suis pas distrait. Je fais juste écouter 8 après épisodes d'une saison.
dans le trafic, les madames qui se maquillent.
Ben oui.
Ben oui.
T'es peu, là.
C'est vrai, c'est récurrent,
ça. Je suis pas dangereux, je fais juste me maquiller. Ouais, c'est parce que le temps que tu te rendes compte que le trafic, il repart, c'est 3, 4, 5, 6 secondes. Si tout le monde, c'est 3, 4, 5, 6 secondes, imagines-tu le trafic?
Tout ce qui fait en sorte que t'es pas concentré à 100% sur la route, c'est dangereux. À chaque fois que je prends mon cellulaire, c'est dangereux. À chaque fois qu'une dame ou qu'un homme regarde dans le miroir, hey, « Je suis correct? Mon brushing est-tu beau? » Tu regardes pas à bonne place. D'ailleurs, il devrait pas y avoir de miroir à la place du conducteur. T'as tes miroirs pour les angles morts, t'as ton miroir pour regarder en arrière. T'es pas supposé d'avoir un miroir pour checker ton brushing, là. C'est pas supposé d'exister, là.
Cet été, je me ramasse au palais de justice, je croise un flic...
accusé de quoi?
De la Sûreté du Québec. Je croise un flic de la Sûreté du Québec, j'étais en train de payer mon abonnement au Photoradar. Et salut Marceau, comment ça va? Puis là, je lui dis, je viens de payer mon abonnement. Il dit, qu'est-ce que tu veux dire? Alors, je viens de payer mon abonnement au Photoradar. Il dit, oh, c'est moins pire. Il dit, vous savez le nombre de personnes qui viennent ici pour le cellulaire au volant. Hey. Là, lui, il était dans une cause, là, au palais de justice. Fait que j'y jasais. Lui me racontait, parce qu'il a fait police de Québec, puis après ça, il a transféré pour la Sûreté du Québec. Pas trop de l'identifier parce qu'il est rendu sur la Rive-Sud maintenant. Quoi que je viens de dire pas mal de choses.
Ouais.
Puis il me dit que...
Je veux pas trop l'identifier, mais voici son adresse.
À Québec, là...
Ouais, il y en a plein de monde qui s'appelle Yannick Marceau.
Ben, c'est ça, là.
À Québec, il est sur la rue de la Couronne. OK? Il est à une lumière rouge.
Ouais.
Il arrive, il regarde l'autre gars qui est dans le char. Le gars dans le char le regarde. Puis le gars qui est dans le char, il voit un policier, là. Il a le cellulaire dans les mains, puis il continue à gosser.
Hey, puis il a vu le policier.
C'est tellement... Tu sais, t'as dit, c'est une habitude.
Ouais.
C'est tellement une habitude que le gars, il a dit, ah, si, c'est un flic qui est à côté de moi, OK. Puis il a continué à jouer avec ses affaires. J'avais pas d'autre choix de l'intercepter.
Ouais.
Puis tu sais, il a pas été bavé avec moi, puis j'ai laissé une chance. Mais tu sais, le gars qui dit, ouais, qu'est-ce qu'il y a?
Hey, ça,
qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ça fait?
Ça me fait penser à un ancien collègue, un soir de Saint-Jean, Marceau, qui... c'est l'année où il y avait eu un petit peu plus de surveillance policière, là, sous l'air Labeaume. Puis, il y a un policier qui fait de la surveillance, puis à un moment donné, il voit notre ancien collègue, puis il dit « Excuse, parce que t'as pas le droit d'amener de bière sur le site. » « Ah, pas de trouble. » Il dit « Ouais, il va falloir que tu laisses ça là. » Il dit « Là, normalement, je devrais te donner un ticket, mais je vais te donner une chance, tu sais. » Puis là, c'est « Ah, c'est beau, c'est correct. » Le gars met sa bière à côté, puis là, ils se mettent à jaser, puis ils ont une bonne conversation. Puis, tu sais, l'habitude étant, c'est la conversation, c'est la Saint-Jean.
Il a pris sa bière.
Notre ancien collègue a pris sa bière, puis il l'a calé. Le policier l'a regardé et lui a dit textuellement, « Tabarnak! » Il y a eu un ticket.
J'adore! Il avait oublié qu'il parlait un policier.
Ouais. Tu sais, des fois, l'habitude reprend le dessus, puis... Hey, en passant, on fait des blagues avec le cellulaire au volant, mais faut pas faire ça. Puis moi, le premier, quand j'ai mes enfants dans le char, j'essaie de trouver des trucs, de le mettre le plus loin possible. Là, à cette heure, je prends mon plus jeune parce qu'il est assis en arrière, puis je dis « c'est toi le DJ pour la run
».
Puis je laisse mon cellulaire, comme ça, je l'ai pas dans les mains, parce que je suis un gars qui zigonne beaucoup. Je m'en vais sur l'application Boulevard. Dès que vous passez une pause, je m'en vais écouter de la musique. Puis là, je passe d'un à l'autre, puis check les messages sur ces lumières rouges. Je suis incorrigible. Puis il faut réussir à... Tu sais, j'ai pas le goût de tuer quelqu'un en char là, à cause que je regarde mon cellulaire. Là. On est rendu malade. On est vraiment rendu malade.
Le soir, tu regardes les gens qui sont dans leur voiture. Oh. Le bas de leur visage est éclairé.
Ben oui!
Tu sais qu'ils sont sur leur cellulaire.
Ça peut pas être autre chose.
Bref, hey, avez-vous parlé hier avec Véro et Audrey de Joey Juno qui a décrit un geste vicieux sur les réseaux sociaux où on voit deux équipes qui embarquent sur la patinoire pour la période de réchauffement. Il y a un jeune qui est en train de regarder à terre, replacer ses gants, son bâton qui est au travers, qui met à peu près un pied dans la zone de l'autre équipe. Puis t'as un autre joueur de l'autre équipe qui, lui, arrive sans ce contraire puis il décide de faire une mise en échec parce qu'il respecte pas sa zone. Joey Juno dit « C'est sentence à vie, plus le droit de jouer au hockey, jamais. » Moi, je trouve ça un peu sévère. J'ai vu sur les réseaux sociaux, Denis, il y en a qui disent que c'est un geste criminel, fait qu'il y en a qui sont encore un peu plus dans l'extrême. Vous vous situez où? À quel endroit vous vous situez dans ce geste-là qui a été porté?
Je suis obligé de te dire que j'étais à la même place que peut-être les plus sévères. Je suis d'accord avec Joey Juno. Je pense que c'est une suspension à vie. Si je suis le coach de ce jeune-là, je dis « Regarde, défais tes affaires, ramasse ta poche, je vais parler à tes parents, tu joues plus avec nous autres. » S'il n'y a pas de sentence qui est donnée par la Ligue, moi, je ne coach plus ce jeune-là. C'est des gestes que je trouve complètement, complètement déplacés. Puis en plus, criminellement dangereux. Tu t'en vas charger un gars qui ne regardent
pas.
T'es pas, dans un contexte de match. Puis on excuse beaucoup de choses qu'on ne devrait pas excuser dans des contextes de match parce qu'on est habitué de voir du monde se taper sa gueule au hockey. Là. Mais là, on est dans des jeunes de moins de 18 ans. On est dans une situation où il n'y a pas d'éclairage sur la patinoire puis que les gens rentrent sa glace. Même si ça avait été intentionnel là, que son patin traverse un peu. Tu sais, à la Brad Marchand, là, hey, je vais être fantasme. Puis c'est pas ça la réalité.
Mais
là.
Intentionnel, mais... ça aurait pas donné ce résultat-là parce qu'il aurait su tout de suite qu'il y a un autre gars qui arrive à l'autre bord.
T'as raison. Il aurait été prêt. Il aurait été prêt à recevoir quelque chose parce que tu te magasines une claque sa gueule, fait que tu t'attends à la recevoir. Dans le cas qu'on parle, c'est juste ben, une maladresse ou une non-connaissance de cette règle non écrite.
Ben, en fait, c'est même pas ça. C'est même plus niaiseux que ça. C'est que les gars sortent du vestiaire et le banc est vis-à-vis la ligne rouge.
Bon.
Fait que quand tu sors puis tu t'en vas tout droit, ben t'es sa ligne rouge.
Okay. Moi, tu peux pas cautionner des gestes comme ça. Je sais que dans les ligues de deck hockey, on est rendu très sévère avec les suspensions. Puis pourquoi? Parce qu'on n'a pas le choix. Parce que le monde est malade. Tu snaps un arbitre, tu donnes des coups de bâton dans le derrière de la tête du monde. Faut commencer à être très sévère, particulièrement avec les plus jeunes. Moi, j'ai vu un match de hockey s'interrompre au centre de glace il y a quoi? Un mois et demi à peu près. Des flots de 14-15 ans, c'était 3-1. Il restait 12 minutes à la période. Puis ça faisait une couple de fois que t'as l'arrêt de jeu qui est sifflé. Puis là, ça se pousse un peu, puis ça se pousse un peu. Un moment donné, il y en a un qui a droppé mitaine. Les arbitres ont tout clairé ça. Ils disent, regarde, sortez, c'est fini.
Fini. Ils ont bien fait.
Il n'y a pas de points, il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de défaite. C'est zéro point tout le monde. Calissez-moi le camp dehors. Puis j'étais d'accord avec ça.
J'ai des discussions régulièrement avec mes gars. Eux autres, ils vont voir du hockey au centre Castel à Sainte-Marie, qui est tout un amphithéâtre. Je ne sais pas s'il y a déjà été au centre Castel, mais sérieux, les enfants sont vraiment bien pour évoluer là. Puis ils vont voir du hockey senior. Ça, le Giovannina de Sainte-Marie, c'est du bon calibre de hockey. Mais là, mes gars, j'en ai un qui est défenseur, puis l'autre qui est centre. Mon plus vieux, mon défenseur, il regarde le défenseur du Giovannina, puis là, il voit des doubles échecs dans le dos. Puis il voit, tu sais, des doubles échecs quand même assez forts pour pouvoir tasser le gars de là. Et le lendemain, je vois mon gars sacrer un double échec dans le dos, mais qui se mis dans le cou du jeune. Puis là, mon gars, il a pogné un 2 minutes. Moi, j'aurais donné un 5 minutes, là. Mais il a pogné un 2 minutes. Puis en discutant avec lui, il dit, « Ouais, mais papa, il dit, les gars du Giovannina, ils clairent le net comme ça. » Je dis, « Oui, mais toi, t'es pas dans le Giovannina, là. Vous êtes des enfants de 12 ans. »
C'est ça qui arrive.
Puis, mais le geste qui a été décrié par Joey Junot, c'est un geste de salaud. Il a seulement eu 10 minutes. Les arbitres auraient dû le sortir pour le match au complet.
Oui.
La job de parent que tu as à faire, c'est de dire « t'as fait une erreur, tu vas payer pour, voici ta sentence, quelque chose à la maison et tout ça. » Là, tu l'empêches de rester à l'intérieur de la maison, mettons.
Ben moi, mon fils...
C'est rendu le contraire. Avant, il nous privait de sortir.
Là, t'es envoyé dehors. Watch-le.
Là, t'es envoyé dehors, puis il va devoir faire un travail de récupération. Donc, peut-être même aller voir ce jeune garçon-là pour lui dire « Hey, quel geste pour que je peux faire pour compenser? » Parce que je m'excuse, mais je veux compenser ce geste-là. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ça serait ma job de parent, moi.
Ben
de
oui.
De l'empêcher de jouer au hockey jusqu'à la fin de ses jours, je trouve que c'est un peu dans l'extrême. C'est un geste complètement cave et irréfléchi, mais c'est des enfants.
Moi, je suis le parent, sentence ou pas. Je descends à côté du bord où je m'en du bord de la patinoire où je m'en vais dans le vestiaire. Garçon, ramasse ta poche, on s'en va.
Ah, c'est terminé.
C'est fini. Ton tournoi est fini.
Exact. Il y a plein de gens qui ont manqué de pédagogie là-dedans.
Ouais.
Les arbitres, l'entraîneur.
Mm-hmm.
Moi, un joueur d'une équipe que je coach fait ça, c'est terminé.
Parce qu'il retourne
jouer. Il retourne jouer après son 10 minutes.
Ah non.
Puis le parent. Les parents aussi ont manqué de pédagogie. Tout le monde a manqué de pédagogie là-dedans. Si l'arbitre n'est pas capable de prendre la bonne décision, c'est à l'entraîneur ou aux parents à la prendre. Là, sont trois, là, je vais dire pères d'adultes, là, les arbitres, les coachs, les parents, à ne pas avoir profité de cet événement malheureux-là pour faire de la pédagogie avec leur enfant. Faire en sorte que cet enfant-là soit moins violent dans sa vie de tous les jours.
Ben
après
oui,
ça, là.
Exact. Moi, j'ai un grand de 12 ans qui commence là, comme défenseur, comme le tien, Yannick. Ça commence à brasser un petit peu là, en avant des buts. Puis, tu sais, c'est correct. Mais à un moment donné, ça brasse un peu. Les arbitres ne callent pas de punition. Ça brasse un petit peu plus. Les arbitres ne callent pas de punition. Puis là, mon grand m'a amené. Il dit, OK, ben, je vais en pousser un moi aussi.
Ben oui.
Il se donne un élan, il pousse à terre, il colle un deux. Puis après ça, nous autres, à la fin des matchs, on revient tout le temps dans le char. Moi, c'est un de mes moments préférés avec mes gars ces temps-ci. Puis c'est un des rares moments où mon grand ado me parle encore dans la semaine. Là. Mais après un match, il veut mes commentaires d'après-match.
Tu vis la même chose que moi. C'est-tu le fun? Hein? Il parle dans ce temps-là.
Oui, oui, c'est le seul moment où j'ai des conversations régulières avec mon grand ces temps-ci. Mais tu sais, on revient ses bons coups, sur les moins bons coups, puis on échange un peu là-dessus. Puis toi, t'as filé ta game comment, puis ainsi de suite. Puis quand on a parlé de ce geste-là, il dit « Mais papa, tout le monde poussait, puis il n'y avait pas de deux. » J'ai dit « Ouais, mais t'es le gars qui a pas donné le choix à l'arbitre de donner
un deux, c'est ça.
Puis j'ai dit « Pense à ça, là. » J'ai dit « L'arbitre, sur la glace, là, il y avait un an et demi, deux ans de plus que toi. Si t'avais été l'arbitre, là, tu l'aurais-tu callé ton 2? » Il dit « Ouais, il dit, je l'aurais callé mon 2. » Ben, dans ce temps-là, tu le prends, t'encourages ton équipe, puis t'assumes tes responsabilités. T'assume. Ben oui, t'as pas le choix. Mais des coups de bâton, des gestes de sauvage de même, moi, je suis pour la ligne dure. J'ai pas de pardon pour ces choses-là, ni en tant que parent, ni en tant qu'entraîneur. Puis si j'étais l'arbitre sur la glace, moi, c'est sûr que je demande une suspension. Moi, c'est un cas de suspension à vie. J'en démarre pas.
Ouais. Ils ont raté effectivement l'exemple qu'ils auraient pu donner, c'est-à-dire tu joues pas ton match, ton tournoi est fini. Ouais. Peut-être une dizaine de matchs de suspension, mais la job de parent aussi qui va être importante. T'sais. Puis on fait toutes des erreurs en passant, là, comme parent, puis comme joueur de hockey. On en a toutes faites. Puis l'important, c'est d'essayer de s'améliorer comme individu. Il n'y a personne de parfait. Hey, les joueurs de hockey de la Ligue nationale qui vont évoluer pour le Canada ne seront pas dans le village olympique, Denis. Je crois avoir trouvé la raison.
C'est quoi?
Ben, tu sais que je suis un journaliste d'enquête. Mm-hmm. Aux Jeux olympiques de Paris en 2024, on a 15 000 athlètes qui étaient présents dans le village olympique.
Oui.
Es-tu proche de ta calculatrice, Jeff? Ben, malgré, t'as pas le besoin de calculatrice, tu calcules assez vite.
Ouais, oui, vas-y.
Il y avait 15 000 athlètes dans le village olympique. On a donné 240 000 préservatifs.
16 préservatifs par athlète.
Pardon?
16 préservatifs par athlète.
Yes, sir.
Ça pourrait-tu être une raison pour laquelle on a sorti les joueurs du Canada?
Les femmes veulent pas.
C'est ça que j'ai dit, moi, c'est les conjoints qui ont dit « Hey, à l'hôtel! »
C'est quoi le rêve olympique? C'est être un jeune athlète, beau, sexy, ta compétition est la première journée, puis tu feras pas le top 30.
Ah oui!
Puis le reste de ton rêve olympique, c'est le village avec les capotes.
Oui, puis t'es sous-mort tout le temps.
C'est ça le rêve olympique.
Ben oui, c'est ça le rêve olympique.
Sur 240 000 préservatifs, il y a 210 000 préservatifs masculins et 10 000 sans latex. Tu vois à quel point je suis précis.
Ben oui, quand
même. Il y a 20 000 préservatifs féminins. Moi, je n'ai jamais vu ça.
C'est la grande enveloppe, là?
Je ne sais pas.
Ouais.
Je serais curieux de voir c'est quoi un préservatif féminin, mais il y en avait 20 000 du lot aux Jeux olympiques de Paris. Et chaque préservatif sera accompagné d'une dose de lubrifiant.
Bon!
Et 10 000 digues buccales. T'as peu, là. Ils donnent des digues buccales aussi qui vont être à la disposition des sportifs et des sportives.
C'est quoi ça, une digue buccale, Yann?
Je peux te l'expliquer. Moi, j'ai vu ça à l'école.
C'est pas ma génération.
Quand tu donnes, quand t'es un homme, en fait, tu peux être une femme qui veut donner de l'amour oral à une femme aussi, là. Tout est permis. Quand tu veux donner l'amour oral à une femme, c'est un genre de petit carré que tu vas déposer sur le minou.
C'est comme licher un timbre.
Oui, oui, c'est ça. Exact.
On fait de l'éducation.
C'est tu places ça. Et
c'est comme un gros timbre.
C'est, puis là, ça se retrouve entre la langue et le minou. Et ça permet la protection pour ne pas diffuser des maladies qu'on veut pas diffuser.
Là, ils vous ont fait faire ça à l'école.
Ben, ils nous ont pas fait faire ça. Ils nous ont montré.
Vous n'avez pas pratiqué, non?
Ils ont fait ça comment, une digue buccale?
Ben, il y en a visiblement qui sont déjà faites de même, mais mettons que tu n'en as pas en ta possession, toi.
Oui, Max.
Mettons que tu n'as pas dans tes poches, tu ne traînes pas ça, une digue buccale.
Ouais. T'as-tu ça dans tes poches, Denis?
Une digue buccale?
Ouais.
Non.
Moi
non
plus. Tu peux?
Toi, Jeff?
Non, pas de digue buccale de mon côté.
Ben, parfait. Avez-vous des condoms?
Ben non, plus.
Non.
Bon, OK, mais mettons, là je sais pas quoi. Prenez un Ziploc, mais mettons que vous avez un condom, vous pouvez le découper et l'ouvrir. Puis pour former un genre de carré, et ça peut remplacer la digue buccale.
Bon!
Puis tu mets le carré comment?
Ben, ça... ça fait okay, sortir
c'est beau, Max!
Non. Sur le...
C'est non.
Sur, ouais.
Il y a des moments où...
C'est non.
On n'est pas dans le bureau, Maxime. Là.
Papa Marceau dit non.
Il y a des moments où je rêverais que Pascal CV soit avec nous.
Elle aurait quitté. Ouais, ben tu viens de nous scraper ce segment éducatif, passe-montagne. Hein?
Oui.
Exact. Donc, tu prends un condom, tu le découpes en carré, puis tu l'installes là comme un saran wrap.
Exact.
Puis ça protège.
Ouais. Ça protège des maladies, oui.
Fait que ça se peut-tu que ce soit ça la véritable raison, c'est qu'on veut enlever toutes les distractions pour les joueurs canadiens?
C'est parce qu'ils sont au village jusqu'à jeudi. Hein? Fait que de la distraction, vont en avoir bien en masse. Là. Moi, je pense que présentement, c'est ce qu'on appelle du double dipping. Là. C'est profiter du meilleur des deux mondes. Ceux qui veulent faire...
Je l'avais pas vu de même au début.
Ouais, ben, c'est voulu. c'est que tant que t'es pas en compétition, tu peux faire le party sur le village, puis ta compétition commence. Là, soudainement, t'as fait tes belles conférences, tes belles entrevues. Hey, les lits sont confortables. La bouffe est bonne. C'est le fun de se mélanger aux athlètes amateurs. Mais dès que ma compétition commence, moi, c'est important de gagner l'or. Fait que là, on va aller dans les hôtels 5 étoiles d'Italie. J'obligerai tous les athlètes de toutes les disciplines à dormir et vivre sur le village olympique.
Entièrement d'accord.
Dans l'esprit olympique de base.
Faut que ce soit égal pour tout le monde.
Que tu sois Sidney Crosby ou que tu sois mon gars célibataire de 18 ans qui fera pas le top 30 que sa compétition la première journée. Quel rêve! Tu t'en vas sur le village olympique. Si t'es trop précieuse pour gagner l'or sur un lit olympique, t'es trop précieuse pour nous représenter, reste chez vous.
Ouais. Non, mais je suis très d'accord parce que de toute façon, le kid de 18 ans que tu parles, là, il a fait autant d'efforts, sinon plus, que Sidney Crosby dans l'année pour se rendre.
Absolument, absolument.
Il n'y a rien eu de facile, lui, là. Il faut aller chercher ses commanditaires, embaucher, coach. On le sait comment c'est difficile pour un athlète amateur.
Je m'amusais hier en regardant le hockey féminin.
Mon ordinateur va exploser.
Moi, j'imagine. Oui. J'imagine.
Les gens le connaissent, le numéro de texto. Hein?
Oui.
Surtout quand Max utilise des mots de vocabulaire.
Quand le sujet les interpelle, ils sont présents.
Ils se rappellent du texto.
Quand ils se sentent allumés.
Ouais, non, moi là-dessus, je trouve pas que l'approche est bonne pour l'équipe de hockey canadienne. Bizarrement, hier, il y avait du hockey féminin. J'ai vu le Canada gagner une victoire quand même assez définitive face à la Tchéquie.
Ouais.
On me dit qu'au hockey féminin, ils seraient capables de gagner des médailles sans dormir dans des hôtels 5 étoiles. Mm-hmm. Peut-être leur demander comment est-ce qu'ils font, parce que ça semble pas possible pour des athlètes millionnaires de la Ligue nationale de hockey. Tu sais, l'esprit d'équipe, c'est important, puis tout ça. Ah ouais, c'est pas important en bobsleigh, c'est pas important dans les autres sports. Puis non, j'ai pas de respect pour ça.
Ben, c'est parce qu'on nous dit que ce serait peut-être pour les virus qui circulent dans le village olympique, mais c'est pareil pour tous les athlètes. Là-dessus, je suis entièrement d'accord.
Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou, repart pas, Max, s'il vous plaît. On vient de se sortir de la merde, là.
Ça t'a tellement sorti de ça, je suis tellement désolé. Je l'avais dit de même en pause tantôt, puis là, les réflexes musculaires, comme on dit.
Ouais, ça doit être ça, oui.
C'est
comme le cellulaire au volant, hein, ça sort tout seul.
Même affaire.
Ouais, prépare-toi pour la pré-pause. On va avoir un bon bulletin de news qui s'en vient. Oui. Denis, je te souhaite de passer un super de bel après-midi. 14h10, les filles jouent. Est-ce que Marie-Philippe Poulin, la fierté Beauceron, sera sur la glace? J'espère. Selon Max, oui. Moi, c'est pas là à 100%. Je donnerai un break aujourd'hui.
Non. Faut qu'elle joue. C'est un match important.
Go Canada, go. Merci, Denis.
Salut.
À tantôt, 14h.
Le Pit Stop avec Denis Gravel, présenté par Identité Québec. Faites votre demande de pardon et soyez financé sans intérêt en une seule étape. Identité Québec, à un clic de votre liberté. Keep on rolling, baby. Boulevard.